Liberté, 159e émission de l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les auditeurs et auditrices de RVM 93.7. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de
Charlotte,
Daniel Cléo
et Christian Max.
Et de moi-même, Hélène Mazur. Nous voici donc aujourd'hui avec une invitée qui va nous parler d'un sujet à la fois rare et important pour notre santé. Donc, on va pouvoir commencer. Charlotte, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Je suis Charlotte, je suis ce qu'on peut appeler une réfugiée environnementale dans un petit village proche de Crépy en Valois qui s'appelle Antilly.
Vous avez bien dit réfugiée environnementale. Vous avez entendu, chers auditeurs et auditrices.
C'est le terme.
On va avoir les explications.
Alors, si j'emploie ce terme, c'est vraiment à dessein. Je vais vous parler aujourd'hui d'une pathologie qui s'appelle le syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques ou électro-hypersensibilité.
Ça fait longtemps que vous êtes à Antilly ?
Alors, je suis arrivée il y a 1 an et 3 mois. Je venais de Paris. Je suis bibliothécaire de métier, j'ai 42 ans. J'aurais pas pensé vivre un jour dans un petit village de 275 habitants.
Ah oui, parce que de Paris à Antilly, effectivement, c'est un monde.
Alors... Oui, il y a aussi une maison de retraite.
Oui, ça c'est pour nous ça, Christian. Oui.
Voilà, alors donc là on commence à comprendre, réfugié environnemental, effectivement, de Paris vers Antilly. Alors, qu'est-ce qui vous a fait fuir comme ça, Charlotte ?
Alors, je vivais depuis 11 ans sous des antennes relais, à Porte de Bagnolet. J'étais exposée de cette manière à la haute fréquence, un terme que je n'aurais jamais employé à cette époque-là. Et je travaillais, bien sûr, comme toute bibliothécaire, dans un environnement saturé d'ondes, tant par le Wi-Fi que par les téléphones portables du public, de nous-mêmes, des collègues. J'ai contribué à la création d'un établissement public parisien, à la médiathèque d'un musée national, sans soupçonner pendant des années que les insomnies, la fatigue et même la dépression qui m'avaient atteinte relevaient d'une cause extérieure. J'ai identifié cette source de gêne lorsque, du jour au lendemain, en octobre 2020, j'ai dû m'enfuir de chez moi, à l'image d'une personne qui serait victime d'une inondation, sauf que j'étais la seule. Aucune autre personne de mon immeuble n'a dû déguerpir. Il s'agissait d'une deuxième confinement, donc c'est bien tombé. J'ai pu partir chez mon père dans le Val-d'Oise et me suis rapidement rétablie, sans comprendre qu'il était temps à ce moment-là d'interrompre toute exposition, et ça signifiait arrêter le Wi-Fi, arrêter d'avoir un téléphone portable.
Alors, comment vous êtes arrivé à cette conclusion ? Ça, on comprend bien. On a tous entendu parler que des habitants de Paris ou de grandes villes ont dû aller ailleurs parce que pour travailler, télétravailler, etc., dans les conditions du confinement, quand on était dans des appartements exigus et qu'on avait la possibilité d'aller ailleurs, certaines l'ont fait. Donc, c'est parce que simplement c'est le confinement et vous vous êtes dit voilà, je n'ai que cette solution, ou bien aviez-vous déjà des soupçons ?
J'ai basculé, c'est-à-dire que je ne pouvais plus soutenir de rester chez moi. J'étais, depuis des années soumise à des insomnies, mais là il s'agissait d'autre chose. J'avais des migraines, nausées, vertiges, palpitations, des sueurs nocturnes et surtout des brûlures qui sont caractéristiques.
Alors, on répète, des migraines, on comprend bien, des palpitations, donc ça touchait le cœur, des insomnies, ouais. Moi j'ai déjà entendu parler, effectivement, mais là vous parlez même de brûlures.
Absolument, j'ai eu pour la première fois de ma vie cette sensation d'irradiation que je ressens maintenant très couramment.
Irradiation.
Absolument. Oui. Ouais. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup de pollution environnementale. On parle des pesticides. On parle ce matin même sur France Inter à la matinale de la lutte contre l'usine Recou, la Soisson qui est dans notre région. On parle de beaucoup de sources de nuisances. On oublie toujours une autre forme de pollution atmosphérique artificielle. Et on peut faire le parallèle avec le scandale de l'amiante qui a mis un siècle avant de d'être reconnu. Ou encore, on peut faire le parallèle pour les électro-hypersensibles d'aujourd'hui. On est un peu les asthmatiques des années 50 avant la prise de conscience de la nocivité du tabac.
C'est vrai que la question des pollutions créées par les humains viennent de plus en plus dans l'actualité. Pollutions sonores aussi, pollutions atmosphériques. On ne cesse de nous dire le nombre de morts du fait des pollutions atmosphériques. Alors, il y a eu dans notre secteur des personnes qui sont opposées à la pose d'antennes relais dans leur village, hein, je peux vous le dire. Mais à ce moment-là, donc ça fait peut-être une dizaine d'années ou plus, on n'avait pas, personne ne pouvait produire encore, je ne sais pas, un texte officiel, scientifique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous
oui.
Vous
alors, la recherche scientifique est prolifique. Il y a, donc, d'une part, les champs artificiels électromagnétiques sont objectivables. J'ai moi-même un simple électro-hypersensible citoyenne tout à fait anonyme de base, un détecteur. On peut tous s'en procurer.
D'accord.
Alors, bien sûr, le commun des mortels ne le fera pas, mais à l'aide de cet outil, on détecte rapidement le caractère pulsé, haché, coupé, irrégulier du champ électromagnétique artificiel, et l'atteinte, elle est sur le système nerveux. Et elle va même aller perturber le fonctionnement du système limbique. Donc, c'est-à-dire au cœur du cerveau. Les ondes cérébrales sont complètement
déséquilibrées. Que ressentez-vous ? Excusez-moi de vous interrompre, parce qu'on se posait la question, n'est-ce pas, Christian ?
Oui, ben moi, en béotien, la question que je me suis posée, est-ce que ces troubles sont d'origine somatique ou psychosomatique ?
Absolument. Comment ressentez-vous ce qui se passe dans votre cerveau ?
Alors, il y a d'une part le ressenti, mais on pourrait nous objectiver que, effectivement, le ressenti ne signifie pas tout. Cela se caractérise par des biomarqueurs de stress oxydant qui sont absolument notables dans le sang. De nombreuses analyses proposées par des professeurs spécialistes de l'électro-hypersensibilité permettent de constater un taux d'histamine extrêmement élevé, des nombreuses preuves de modification du terrain.
Excusez-moi, vous pouvez dire pour ce que ça révèle, le taux
d'histamine ? Cela révèle une allergie.
Donc ça c'est, moi je connais ça aussi. Donc c'est déjà une allergie à quelque chose, oui.
Et on peut constater une perturbation de la réponse inflammatoire. Il y a un phénomène d'oxydation avec l'effondrement du système immunitaire. On observe même l'atteinte de la barrière hémato-encéphalique et la réduction de l'oxygénation cérébrale.
Alors justement, la barrière est...
Hémato-encéphalique.
Hémato-encéphalique, vous pouvez dire ce que
oui.
c'est.
Alors c'est la barrière qui fait la frontière entre le cerveau et le sang.
Voilà, entre le cerveau et le sang. Donc c'est cette barrière pour différents traitements qu'il est impossible de passer. C'est ce qu'on nous dit, c'est une vraie barrière, on peut rien. Et là, par contre,
elle est affinée, elle est observée à l'aide d'examens qui peuvent être l'électroencéphaloscan, le TEP, j'ai oublié, il y a un établissement à Paris, voilà, le TEP scan à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Donc on observe une hypovascularisation, un hypométabolisme. Donc la quantité de stress dépasse la capacité d'adaptation du corps et on bascule dans un syndrome d'adaptation au stress avec une phase d'alarme d'abord, puis une phase de résistance au stress ou qu'on appelle aussi phase d'adaptation, puis une phase d'épuisement. En fait, il s'agit d'un burn-out, mais littéral et décuplé. C'est donc la caractéristique commune, courante, c'est celle de ce phénomène de brûlure qui n'engendre pas de conséquences visibles. Ce handicap reste un handicap invisible et c'est une des grandes difficultés pour la compréhension par les proches, par le cercle médical, par le cercle professionnel et engendre une bascule totale de l'ensemble des aspects de la vie.
Oui,
mais Charlotte, qui est-ce qui vous a décelé ce syndrome et comment vous êtes amenée à aller consulter X, Y personnes ?
Alors,
parce que ça n'a pas dû être simple.
Dans mon cas, j'ai d'abord vu un neurologue, mais le scepticisme était total. M'étant mise à l'abri, j'ai jugé peu utile à ce moment-là de persévérer. Et en fait, pour moi, le deuxième basculement a eu lieu, donc 9 mois plus tard, au moment où il s'est agi de... Non, 6 mois plus tard, au moment où il s'est agi de trouver un lieu de vie permanent, après cette période chez mon père, après le confinement, je me suis rendu compte qu'aucun des logements que je ne visitais n'était habitable pour moi. Bon, je passerai les détails, j'ai signé des bails, visité des appartements où j'étais prise de malaise à la simple proximité de ce qui est câble électrique souterrain dans la rue.
Quel type de malaise ?
Alors, c'était des moments où tous les symptômes revenaient, les palpitations, les nausées, les migraines, les vertiges. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cette haute fréquence dont je parlais tout à l'heure, donc qui est souvent la cause du déclenchement de la pathologie, engendre ensuite une intolérance à la basse fréquence, ce qui signifie qu'on ne peut plus supporter quelque électricité que ce soit. Si les auditeurs pouvaient voir qu'aujourd'hui, nous avons pris beaucoup, beaucoup de précautions pour que je puisse endurer l'enregistrement de cette émission et que j'expliquais que je dois dormir dans un baldaquin blindé et disjoncter tout le système électrique la nuit. Voilà.
Oui, donc, alors on va venir après à tous les éléments qui vous permettent de vous protéger et de vivre quand même dans notre monde, si j'ose dire. Si on se résume, il y a des symptômes qui ne sont pas visibles à l'œil, mais qui sont détectables puisqu'il y a des biomarqueurs, des analyses et puis des examens du cerveau qui permettent donc de... finalement, de poser un diagnostic. Donc, quand vous a-t-on posé le diagnostic et comment qui ?
Je n'ai pas répondu tout à fait complètement à votre question.
J'attendais.
Absolument. C'est lorsque j'ai vraiment pris conscience que là, pour être tout à fait honnête, la survie dans le monde de 2022, ou à l'époque 2021, me semblait impossible. Là, je me suis dit, bon, de toute façon, je ne peux plus travailler. Je passe les détails, mais j'ai dû me faire diagnostiquer. J'ai rencontré un spécialiste, il en existe certains, et en particulier donc, le professeur Belpomme qui exerce à Paris, qui est aussi cancérologue. Et puis, par la suite, j'ai été suivie par le docteur Tripodi, que je tiens à citer parce qu'il est chef de service de maladies professionnelles et environnementales au CHU de Nantes. Donc, il me suit à distance. Et c'est un médecin du travail.
Donc vous parlez donc le spécialiste, il est spécialiste des maladies professionnelles environnementales.
Absolument. Dans quel, alors le professeur Belpomme est en exerce. Oui, le professeur Belpomme exerce à Paris. Il a un cabinet privé donc de médecine environnementale et le docteur Tripodi est au CHU de Nantes.
Et médecin du travail. Mm.
Donc ça veut dire qu'il y a des précédents s'il y a. Un service des maladies professionnelles environnementales.
En fait, on compte les électro-hypersensibles en termes de génération relative aux générations de téléphonie mobile. Il y a les électro-hypersensibles de la 2G, de la 3G, de la 4G, de la 5G, etc. On tombe par vagues successives. Et il y a déjà depuis... je pense il y a 12 ans, il y a un premier documentaire... étayé déjà très conséquent qui s'appelle Cherche zone blanche désespérément qui allait à la rencontre de ces personnes et établissait l'ensemble du paysage que je suis en train de vous décrire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et pour parler du soleil, on peut faire l'analogie puisque l'électro-hypersensible a dépassé son capital comme un capital soleil, le capital onde. Il y a un moment où le corps ne peut plus accuser le coup. Alors, par contre, je tiens à vous dire que nous, on est des lanceurs d'alerte. Mais finalement, on est peut-être les plus chanceux. En fait, chez nous, ça a développé donc, des réactions épidermiques excessives, mais l'exposition au champ électromagnétique peut entraîner une mutation de l'ADN et une cancérisation à long terme. Il y a un risque majeur de glioblastome, de tumeur du cerveau.
Vous dites que ça peut développer une cancérisation. Donc plus de, comment dire, d'atteinte de
absolument,
cancer.
On commence, il y a un électro-hypersensible, enfin, au contraire, peut-être justement quelqu'un qui n'est pas passé par cet état, qui est reconnu là en Italie, qui a une indemnisation pour une tumeur du cerveau en lien direct avec l'usage de son téléphone mobile.
Voilà. Une tumeur du cerveau. Donc ça touche, si c'est un cancer, ça touche le cerveau.
Voilà. En fait, il y a déjà des faisceaux de concordance. Alors moi, je suis vraiment une littéraire au départ. Je ne maîtrise pas tous ces sujets. Je peux simplement faire état de ce qui est rapporté dans l'état de la recherche et de, en fait, le docteur Milberg, qui est une autre spécialiste de l'électro-hypersensibilité, publie, de même que le docteur Belpomme, sur cette étude de la mutation possible de l'ADN et la cancérisation.
Eh bien, donc, vous voyez, chers auditeurs, auditrices d'RVM, que en partant de, comment dire, on va dire de soupçons, de sensibilité comme ça. Moi, dans ma famille, quelqu'un me demandait d'éteindre le Wi-Fi la nuit parce qu'elle pensait que ça la gênait pour dormir. Vous voyez, donc depuis, c'est quelque chose que j'ai fait régulièrement. Mais donc, de choses, c'était peu, si j'ose dire. Parce que là, c'est une vraie maladie, une vraie pathologie.
Est-ce qu'on sait actuellement en France, enfin je vais parler de la France, combien il y aurait de personnes atteintes?
Alors, les chiffres énoncés seraient de l'ordre de 5% de la population, donc une personne sur 20. Ça veut dire 3,5 millions de Français. Alors, comme je vous disais, on est tous, enfin c'est entre nous que je disais ça avant, on est, tout être vivant est électrosensible. Le monde végétal, le monde vivant est un monde de fréquences électromagnétiques. Ce sont les fréquences électromagnétiques naturelles, la lumière, le son, tout est onde, tout est fréquence. Simplement, là on parle de champ artificiel. Et toute personne peut avoir une sensibilité, une capacité de ressenti inconsciente de cette perception des champs électromagnétiques. Et nous, on est basculé juste simplement dans l'électro-hypersensibilité. On n'est pas des malades en réalité, on est juste une frange de la population plus sensible que les autres.
Oui. Oui, en fait, c'est un peu comme les allergies. L'allergie, c'est une hypersensibilité à quelque chose. Donc, effectivement, nous allons bientôt terminer cet entretien. Peut-être que nous avons d'autres points que nous n'avons pas abordés sur votre parcours ou sur les soins, entre guillemets, qu'on peut...
Alors, on s'est mis d'accord pour faire une deuxième émission consacrée entièrement aux possibilités d'amélioration. Hein. L'idée, ce n'est pas d'affoler, d'être terrifié tout le monde. Il y a des pistes.
On se reverra. Oui.
Non, mais en tous les cas, c'est bien comment dire, de faire relever à chacun, lorsqu'il éprouve des symptômes curieux sans en comprendre l'origine, de les faire relever, et puis avec l'environnement dans lequel il est, où elle est, pour essayer, parce que malgré tout, entre le moment où vous avez commencé à souffrir de ces migraines, etc., et le moment où vous êtes arrivé au diagnostic, il s'est passé combien de temps ?
C'est ça qui est difficile, de vraiment refaire l'historique, parce qu'on peut remonter très loin si on y est attentif. Moi, c'est vraiment le moment où j'ai basculé, où j'ai commencé à vivre sous les antennes relais, où j'ai eu rapidement des effets. D'accord. Épuisement. Donc pour moi, c'était 2009, en fait. J'ai vécu pendant 11 ans
2009,
sous les antennes.
Jusqu'en 2019, avant de vous rendre compte. Donc, donc votre corps a emmagasiné beaucoup. Eh bien, chères auditrices, auditeurs d'RVM, vous voyez que c'est un sujet extrêmement sensible, c'est le cas de le dire, et que nous ne voulons pas, laisser en suspens des informations qui pourraient vous être utiles et aussi vous sécuriser quelque part. Donc, comme l'a dit Charlotte, nous reprogrammerons une poursuite de cet entretien. Nous la remercions beaucoup d'être
Merci.
Venue parce que c'est un effort pour elle. Et nous vous disons, chères auditrices, auditeurs, vous pouvez nous écouter le samedi à 10h30, le mardi à 13h, le jeudi à 16h. Et je vous dis au revoir.
Au revoir, les amis.
Au revoir.
Au revoir.